j'ai plus grand chose à raconter à part mes déambulations avec mon contre-attaque dans les codes qui résonnaient.
Attention, projecté.
Je tremble.
Tu es prête à repartir ou
oui.
Ça te fait
non, j'y vais. S'il faut y aller, là, j'y vais.
C'est quoi ton nom? Lâche les cheveux.
Un gentil baqueux m'a regardé, m'a mis un gros point dans le nez.
Un des CRS l'a chopé par le cou et l'a étranglé, il l'a jeté par terre sur le dos pour qu'elle se taise.
Il m'a foutu une baffe, il m'a traité de connasse, je lui ai rien fait.
C'est normal qu'il est la race du peuple, on nous demande pas notre avis. On crève la bouche ouverte.
Ce son, cet interlude tiré de la compilation Hits en lutte qui nous replonge dans l'ambiance répressive qui entourait le mouvement contre la loi travail il y a un an, eh bien, il nous permet aussi d'introduire le magazine d'aujourd'hui, magazine consacré aux violences et au racisme d'État, hein, ça va souvent ensemble, aux violences policières en particulier et les crimes policiers. Nous allons faire ensemble là un large tour de l'actualité des différentes affaires de violences policières et même de meurtre hein, commis par les forces de l'ordre, un passage en revue aussi, et c'est le plus important évidemment, des luttes en cours contre ces exactions et contre l'impunité qui les entoure bien souvent, même quasiment tout le temps. Alors autant dire que l'émission va être dense, pour nous accompagner Mathieu, une voix connue des auditeurs et auditrices de Canal Sud, mais qui vient là aussi en tant que membre du comité Vérité et Justice 31. C'est le nom aujourd'hui, c'était à la base, c'était Comité et Vérité, Vérité et Justice pour Adama Traoré et pour toutes les victimes du violence et du racisme d'État. C'était un peu long, donc
voilà,
ça s'est été...
Voilà, le dernier ferme la porte.
Voilà, et c'était un peu contracté du coup aujourd'hui, Comité ouais. Vérité et Justice 31, aussi parce que Adama Traoré n'est pas la seule affaire sur laquelle vous luttez.
Ouais, exactement. L'idée, c'était de se dire à un moment, ben voilà, le comité, on l'a lancé sur, d'ailleurs, dans les locaux de la radio, sur un événement qui était le procès de Bagui. On va en reparler tout à l'heure, mais
et du coup,
un des frères d'Adama. Et du coup, derrière, que on avait envie d'ouvrir ça plus largement aux violences policières. Et du coup, on a pris un nom plus générique qui peut se discuter, hein, Comité Vérité et Justice.
31. Et alors, comme je le disais, le magazine va être évidemment dense, beaucoup d'affaires à aborder aujourd'hui, car les violences policières, hélas, ne s'arrêtent jamais, et même si elles concernent en premier lieu les quartiers populaires, hein, qui sont vraiment en première ligne de ces exactions policières, on verra qu'elles touchent malgré tout le territoire. Tiens, on va parlant de tout le territoire, prenons un exemple proche de nous, le centre-ville de Toulouse. Nous sommes la nuit du lundi 29 au mardi 30 mai 2017, il est 4h du matin, un petit peu après 4h du matin, du côté du Monument aux Morts. Une voiture roule, feu éteint, et elle va du coup attirer l'attention d'une équipe de la BAC. Celle-ci tente d'arrêter le véhicule et de contrôler le conducteur, mais celui-ci est en l'occurrence au volant d'une voiture volée. Qui plus est, il est en liberté conditionnelle, il va donc tenter d'échapper à ce contrôle, à ces policiers, et va s'en suivre une course-poursuite dans les rues de Toulouse, dans les rues désertes de Toulouse, il faut le préciser. Finalement, la voiture en fuite se retrouve coincée dans un cul-de-sac près du Capitole. Alors je ne sais pas trop comment, là évidemment on a surtout le point de vue des policiers, mais il va réussir à faire un demi-tour, à percuter une voiture de la BAC qui fermait le passage. Visiblement il roule aussi à moitié, ou en tout cas il évite de peu un policier qui arrive à lui tirer dans les pneus. Alors là on se dit, bon, avec des pneus probablement crevés, il va pas aller loin. Bah, effectivement il va pas aller loin, puisqu'un peu plus loin il va croiser trois policiers qui arrivaient en renfort. Ces trois policiers croisent le fuyard et deux d'entre eux vont ouvrir le feu. Mais quand je dis ouvrir le feu, ils vont littéralement arroser la voiture de balles, hein, et pas les pneus, la voiture elle-même, une douzaine de balles, dont une qui va toucher le conducteur en pleine tête. Celui-ci, amené aux urgences, décédera peu après. Voilà, ainsi donc est mort Michael Simon. C'était un jeune homme de 27 ans. Alors on va faire comme quand un policier meurt, hein, on va dire père aimant de deux enfants. Voilà, de deux jeunes enfants. Michael Simon, donc c'est c'est une des dernières victimes de la police en date, et il se trouve que c'est là, à deux pas de chez nous, à deux pas de ce studio.
Ouais, alors du coup le récit que tu viens de faire, faut le préciser, c'est le récit de la version, enfin,
les rues, version qu'on a pour le
tu l'as bien dit, les rues étaient désertes, a priori, sauf ce témoin qui se révélerait plus tardivement, il n'y a pas de témoin de ce qui s'est passé vraiment, ou en tout cas on n'est pas au courant. Et du coup, on est obligé de s'en remettre à ce que disent les policiers de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, voilà. Comme bien souvent d'ailleurs, c'est un truc qu'on va retrouver dans toutes les affaires dont on va parler aujourd'hui. Il y a toujours ce problème de la version policière qui est centrale dans toutes les affaires, quoi.
Alors, il y a quand même des petites choses qu'on peut dire. Bon, d'abord, évidemment, on dit notre pensée pour Michael Simon et pour sa famille, hein, pour ce jeune homme. Pour parler de l'affaire en elle-même, quand même, une dizaine de tirs, c'est énorme. Surtout, bon, a priori, il n'y avait pas de raison de ne pas tirer dans les pneus, hein, comme on l'a dit. Ça, c'est ce qu'avait fait le premier, visiblement, hein, de l'avis même, du rapport même fait par les policiers. C'est ce qu'a fait le premier flic qui a croisé, qui s'est retrouvé confronté à ça. Il a tiré dans les pneus. On se demande pourquoi les autres n'ont pas fait pareil. Et d'ailleurs, dans le Libération, dans un article de Libération qui suivait cette affaire, un fonctionnaire anonyme en poste au Mirail, un fonctionnaire de la police, dit lui-même « Une dizaine de tirs, c'est beaucoup, ils auraient pu stopper le type en tirant dans les pneus. » Là, c'est un policier qui parle à un journaliste de Libération. Donc ça paraît quand même assez évident, on ne comprend pas très bien, enfin on comprend peut-être que trop, mais enfin, c'est assez compliqué cette histoire. Ils ont tiré pour tuer, là, clairement.
Ouais, clairement.
En tout cas, pour blesser, au minimum. Enfin, bon,
C'est un policier du Mirail qui dit ça, c'est, je veux dire, c'est pas le... Donc ça, c'est des policiers qui eux aussi peuvent être violents, on le sait, et bon, pour qu'un policier comme ça dise ça, c'est quand même un peu...
Ouais, ça pose question, ouais. Alors il y a une autre chose qui pose question, et là on arrive évidemment sur le racisme d'État, c'est que, on l'a pas précisé, mais Michael, il était Rome ou gens du voyage, enfin je sais pas comment on peut les appeler, c'était un voyageur, et évidemment ça compte aussi, hein, dans la quinzaine, on va dire, en moyenne, de personnes qui meurent sous les balles de la police ou de la gendarmerie, en tout cas des forces de l'ordre par an, il y a énormément de gens qui sont qui sont pas blancs, hein, tout simplement, hein, qui sont noirs, arabes, gitans, ce qu'on veut, mais qui sont pas blancs.
Sous les balles ou autres.
Ou autres,
bien sûr, oui, oui.
Hein. Ou sous les corps, sous les mains, ouais. Ouais. Sous les coups. Carrément, il y a ta pour info, vous pouvez retrouver un entretien qui avait été publié avec une responsable d'association, se définissent comme voyageurs, qui expliquait la constance des relations de violence et de discrimination des policiers et des gendarmes en France vis-à-vis des voyageurs. Effectivement, c'est quelque chose que dans l'antiracisme, on parle assez souvent donc des Noirs et des Arabes qui sont les premières cibles de la police, premières victimes de la police, mais il ne faut pas oublier cette population-là qui est elle aussi est victime d'un racisme d'État, dans le sens où elle est traitée différemment, et dans cet entretien elle explique bien comment, c'est-à-dire méprisée, violentée en permanence, et voilà, donc oui, et encore une fois, on peut discuter individuellement sur chaque cas, alors voilà, Michael, il était en voiture, les gens n'ont pas vu comment il était. Il se trouve qu'au final, les faits sont là. Les victimes sont à 99,9% que des Noirs, des Arabes, des voyageurs, des Asiatiques, des personnes qui subissent le racisme.
Alors l'entretien dont tu parlais, qui est en fait un entretien réalisé par la Rotative, hein, à la base, c'est le Yata de Toulouse, hein, de Tours, pardon, mais qui est repris du coup sur Yata. Elle s'appelle donc cette personne Nara Ritz, membre du CNASI, collectif national des associations de citoyens itinérants. Elle met effectivement, tu l'as dit, vous pouvez aller lire cet article. Elle met en avant effectivement les contrôles aux faciès et les pratiques racistes que les populations tziganes subissent. Et elle dit d'ailleurs, hein, par exemple, il y a de cela quelques temps, lors d'un trajet pour aller au Sainte-Marie, nous avons subi 19 contrôles de police. Les agents nous attendaient de commune en commune. On rappelle que Sainte-Marie, c'est là où il y a un grand pèlerinage annuel des gens du voyage, hein, donc c'était pas un hasard si les policiers étaient là. Et elle revient sur deux affaires dont il faut dire un mot aussi. Deux morts par la police. Un, c'était en 2010, on en avait un petit peu parlé. C'était à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, petite commune du Loir-et-Cher. C'était déjà sur un barrage forcé. Un jeune de 22 ans qui s'appelait Luigi Duquenet, qui s'était fait abattre par la police. Voilà, ça c'était en 2010. Ça avait créé des émeutes sur Saint-Aignan, dans cette petite commune où il y a à peine quoi, les 3500 habitants. Autant dire qu'à l'époque, ça avait fait un petit peu parler. Est abordé également dans cette interview la mort d'un autre homme près de Blois, donc dans le même coin. Lui, il était en cavale, donc c'est le GIGN qui l'a retrouvé. Il avait 37 ans, il a été tué le 30 mars 2017 et il s'appelait Angelo Garan. Voilà, donc également des voyageurs. Tué par la police récemment, dont un, on voit, il y a juste quelques semaines.
Et juste au passage, tu dis il est en cavale, donc c'est le GIGN qui est venu le chercher. C'est pas du tout logique, en fait, que ce soit le GIGN qui y soit allé. Normalement, c'est pas leur boulot, en fait, de faire ça. Et donc, il y a une hypothèse, c'est que, en fait, comme ça a été émis par leur avocat puis des associations, c'est qu'en fait, le GIGN est venu s'entraîner sur un cas, quoi. Et du coup, ça allait là où on sait, c'est-à-dire qu'ils l'ont abattu, voilà. Oui, c'est proche.
Généralement, souvent, c'est ce qu'ils font. GIGN, on les voit, on le voit quand ils pourchassent les terroristes ou les choses comme ça. Généralement, c'est la mort assurée. Alors, il y a une autre explication aussi, enfin, une autre explication complémentaire, qui ne va pas contre celle que tu dis, avancée par Nara Ritz, c'est le poids des représentations historiques très dures à déconstruire autour de la figure du Digan, du Gitan, etc. Les stéréotypes concernant les gens du voyage les désignent comme agressifs, voleurs, dangereux, violents. Et c'est à cause de ces stéréotypes, dit Nara Ritz, que le procureur de la République a pu justifier de faire intervenir les GIGN en faisant passer Angelo Garan pour un fugitif dangereux. Voilà. Faute de lutter contre ces représentations, on installe l'idée que les voyageurs seraient automatiquement dangereux. Voilà. Voilà donc Michael Simon, on peut pas en dire tellement plus. Est-ce que tu as eu des nouvelles peut-être via l'avocate?
Non, alors du coup le Michael Simon était abattu dans les rues de Toulouse, il était originaire de Pau. À Pau, il y a eu des mobilisations importantes parce que son frère a été empêché de se rendre aux obsèques, il y a eu des émeutes.
Oui, parce que son frère était enfermé et voilà. On a essayé de l'empêcher, on l'a pas voulu lui donner une permission pour qu'il aille se rendre aux obsèques, qui finalement a été accordée après les émeutes.
Voilà, comme quoi la lutte ça paye. Et du coup, on essaie de joindre en ce moment la famille et leur avocate. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait.
Voilà. Avocate qui disait dans une interview à la Dépêche, qui précisait que son client était désarmé au moment des faits et donc que pour le moment, il était assez compliqué. Bon, elle parle en tant qu'expert juridique, mais qu'il était compliqué de parler de légitime défense. Voilà pour Michael Simon. On va avancer un petit peu dans cette émission et dans ce magazine où on fait un peu le point sur différentes affaires de violences policières et les luttes. Quand je dis violences policières, en réalité, pour la plupart, c'est des meurtres policiers. Et les luttes qui évidemment s'en suivent. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit depuis l'an dernier, depuis le 19 juillet dernier, c'est la mort d'Adama Traoré. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, et cette affaire Adama Traoré est devenue une affaire Traoré tout court, entre, si on peut le dire, puisque la famille Traoré s'est montrée très, qui est une grosse famille, s'est montrée très forte et très virulente dans ce combat pour que justice soit rendue et que pour la vérité soit établie autour de la mort d'Adama Traoré à la gendarmerie de Persan le 19 juillet dernier, et du coup ils subissent, il faut le dire, une répression à leur tour assez importante. Est-ce que tu peux nous redire un mot, notamment sur Bagui et Youssouf?
Alors Bagui en particulier et Youssouf un peu se payent en fait, font l'objet d'une certaine vengeance de l'État face à la mobilisation de leur famille. Ça leur a été dit très clairement, ils se sont fait arrêter une première fois suite à du chahut, on va dire, au conseil municipal de Beaumont-sur-Oise, la commune où vivait Adama.
Autour du conseil municipal, c'était même pas dedans, c'était à l'extérieur.
Ouais, voilà, ils ont essayé de rentrer parce que la maire a eu des propos totalement abjects et un manque de respect global pour Adama Traoré et a attaqué en justice Assa Traoré pour diffamation. Enfin bon, c'est une très très longue histoire, on peut aller dans toutes les ramifications.
La maire de la commune, pas la maire d'Adama.
Oui, pardon, oui, tout à fait.
Oui, maire les Républicains.
Oui, voilà. Du coup, il y a eu du gaz lacrymogène envoyé par les policiers municipaux. Il y avait des gendarmes et des policiers municipaux qui disent avoir fait l'objet de violences et de menaces de mort. Il s'est avéré que... Il y a eu deux blessés parmi les policiers ce jour-là. Une policière qui s'est intoxiquée avec son propre gaz lacrymogène d'après le médecin et un policier qui s'est fait mordre par son propre chien. Voilà. Et malgré tout, on a essayé de coller. Alors, il y avait plusieurs dizaines de personnes dans la salle et par hasard, il y a deux personnes qui sont arrêtées ce jour-là, Youssouf et Bagui Traoré, donc les deux frères d'Adama Traoré. Bagui Traoré étant Par ailleurs, le principal témoin de la mort de son frère.
Oui, le dernier à l'avoir vu vivant, voilà. En dehors des gendarmes.
Hein. Voilà. Du coup, c'est pas un hasard. Et par la suite, il y a encore deux autres affaires qu'ils essaient de lui mettre sur le dos, qui pourraient lui coûter cher si la justice le condamne. Ça serait donc tentative d'assassinat au moment des émeutes, puis une autre affaire encore. Bon,
au moment des émeutes, qu'on suivit la mort d'Adama dans ce coin-là. Donc c'est ça. Donc on comprend bien qu'il a été. Alors parce que oui, ça n'a pas été au bout, mais il a été arrêté suite. Les deux ont été arrêtés suite à ce conseil municipal. Ils ont été mis en préventif, ils sont restés en préventif, ce qui pour généralement une histoire d'outrage n'arrive jamais, c'est totalement clair. Inédit. Donc on voit bien que là il y avait déjà un traitement de faveur, on va dire. Ouais. Et là-dessus, alors qu'ils étaient ils ont pris des peines assez lourdes, en l'occurrence Bagui a pris 8 mois ferme à ce moment-là. Et par-dessus ça, alors qu'il était en prison, on lui colle maintenant une tentative d'homicide volontaire.
Ouais, le déroulé, il est absolument ahurissant. Il est mis en prison, et puis sa famille n'arrive pas à le joindre. Et puis sa famille apprend au dernier moment que depuis des semaines, ils envoient de l'argent à Bagui en prison pour cantiner, c'est-à-dire pour pouvoir se payer un peu tout ce dont tu as besoin en prison. Et l'administration pénitentiaire a renvoyé cet argent, donc il n'a pas eu d'argent disponible en prison. Et puis au dernier moment où ils avaient réussi à arracher une visite, et ben finalement, ils le mettent dans une autre prison pour une autre histoire. Et donc en fait au final il se retrouve depuis tout ce temps-là très isolé, il a fait une grève de la faim. Bon voilà, faut lui souhaiter qu'il soit solide, parce que clairement enfin peu importe je veux dire le fond des affaires pour lesquelles il est poursuivi, de facto c'est le témoin principal dans l'assassinat de son frère, et il va se passer que si jamais il y a un procès, ce qui est déjà pas sûr, et que les gendarmes sont traînés devant le tribunal, bah ce témoin va être d'avance extrêmement décrédibilisé devant la cour, parce que c'est un multirécidiviste, vous voyez, et puis il est accusé de tentative d'assassinat contre des flics, vous voyez à quel point ce gars-là sera pas crédible du tout devant un tribunal. Donc c'est vraiment, ils sont en train de détruire par avance une défense possible, et en même temps de faire payer à la famille sa mobilisation, puisque lors de la première arrestation de Bagui et Youssouf, il leur a été dit par des gendarmes, c'est la faute à votre sœur, il faut qu'elle arrête de parler, il faut qu'elle se calme, parce que c'est la sœur Assa Traoré qui est un peu la figure emblématique de cette mobilisation, quoi.
Alors le procès dont tu parlais, ce serait le procès éventuel des gendarmes mis en cause dans la mort d'Adama Traoré. C'est ce pourquoi se battent Assa Traoré, les frères, toute la famille, tous les soutiens. Mais des procès, ce procès-là, effectivement, on ne sait pas s'il aura lieu, mais des procès, il y en a déjà eu. Donc je l'ai dit, Bagui et Youssouf condamnés. Et en l'occurrence, il y avait appel, c'était la semaine dernière, le 6 juin. C'était au tribunal de Versailles. On va écouter Assa Traoré. Alors le son n'est pas très bon, c'est pris sur un portable. Mais c'est Assa Traoré à la sortie du tribunal le 6 juin qui annonce et commente la nouvelle décision de justice.
C'est quelque chose d'extrêmement fort que la Cour de Versailles a pu faire, d'annuler cette interdiction sur Beaumont, de baisser les peines, de baisser ces sommes d'argent. Aujourd'hui, on prouve ce qu'on disait depuis le début et confirmé aujourd'hui, c'est l'acharnement de la juridiction de Pontoise, des juges de Pontoise. Versailles a annulé ça et a baissé ça, et je pense que ça, il faut l'entendre. Il faut entendre que là, Pontoise n'est pas en mesure de juger la famille Traoré. On le prouve, c'est prouvé encore aujourd'hui sur Versailles. Je pense que si on serait passé à Versailles la première fois, on n'aurait même pas eu besoin de faire appel.
C'est quoi les prochaines échéances pour vous sur le plan judiciaire ou autre ?
Donc sur Bagui, il y a son interrogatoire le 22 juin qui va arriver sur cette tentative d'assassinat qu'on lui met sur le dos après la mort de mon frère Adama. Il faut savoir que si aujourd'hui nous sommes à Versailles, si aujourd'hui, si le 22 Bagui est interrogé, subit un interrogatoire, c'est que depuis le début, ce qu'on demande, ce que la famille Traoré demande, c'est la vérité et la justice pour Adama. Aujourd'hui, si on est là, bon, bah, c'est les conséquences de notre mobilisation, les conséquences de la vérité qu'on veut. Aujourd'hui, tout ce qu'on subit et tout cet acharnement qu'on subit est à la hauteur de la mobilisation de la famille Traoré du soutien. En espérant que cette tentative d'assassinat sera annulée pour Bagui, nous resterons toujours sur le même chemin. Nous gardons toujours cette ligne droite qu'on garde depuis le début. C'est la condamnation de ces gendarmes. En tout cas, on remercie tous nos soutiens. On remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. On arrive sur un an bientôt. Dans moins de 2 mois, nous arrivons sur les 1 an de la mort d'Adama. et effectivement 8 mois, la famille Traoré, un mort, 3 prisonniers, des soutiens en prison. Donc sur un an, nous espérons que la justice à Paris fera son travail comme il se doit, prendra ses responsabilités comme il se doit, tout comme la juridiction de Pontoise, et que ces gendarmes seront condamnés, parce que le combat pour Adama, la vérité, la justice, c'est ça, la condamnation des gendarmes mis en cause dans la mort d'Adama, et de dénoncer aussi tout ce système mis en place autour de ces violences policières quand il y a un mort et quand il y a une victime. Merci.
Assa Traoré, donc, à la sortie du tribunal le 6 juin dernier. Alors, pour être, c'était peut-être pas totalement clair pour les auditrices, les auditeurs, donc c'était le procès en appel par rapport à ces histoires autour de ces échafourées, hein, comme tu l'as dit, autour du conseil municipal à Beaumont. Et du coup, effectivement, la peine a été un peu revue à la baisse, ce qui avait l'air de plutôt satisfaire la famille. Notamment, Bagui passe de 8 mois de prison ferme à 6 mois, et l'interdiction, ça c'était très important, l'interdiction de séjour sur Beaumont-sur-Oise, donc là où ils habitent en fait, hein, a été levée. Bon, enfin, ceci dit, ça reste quand même une condamnation, d'une part une condamnation, et puis quand même assez forte, 6 mois de prison, c'est pas rien. Hein.
Ouais, je suis d'accord. Après, je pense que du point de vue de la famille Traoré, vu tout ce qu'ils subissent depuis le début, je pense qu'ils prennent toute amélioration qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent que s'en réjouir, quoi. Et oui, clairement, on l'a dit, il y a un acharnement vraiment conséquent sur les frères Traoré en particulier, quoi.
Ouais. Il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que là, ça fait plus de 6 mois que Bagui est en prison.
Ouais.
Puisque c'était novembre, du coup, il serait censé sortir.
Par ailleurs, il est mis en examen pour, il est en préventif pour d'autres affaires.
Notamment cet homicide, voilà. Cette tentative d'homicide présumé, ouais.
Voilà. Et au passage, pour rentrer quand même un petit peu dans le fond des choses, il a déjà 12 condamnations à son casier, et clairement, c'est ça qui joue. Énormément dans cette affaire, parce que en fait finalement pour quiconque a déjà assisté à des procès au tribunal pour des comparutions immédiates ou des petits délits, quelqu'un qui a déjà plein de condamnations, il est jugé d'avance en fait. Et clairement là les policiers n'ont pas besoin d'amener beaucoup de preuves ou même d'en amener du tout pour justifier son maintien en prison. Encore une fois, l'assassin, un de ses frères, il fait bien de le remarquer. Il dit, mais il y avait des dizaines de personnes qui ont essayé d'envahir le conseil municipal. Ils en ont pris deux, les deux frères Traoré. Il y avait des centaines de personnes qui ont participé aux émeutes suite à la mort d'Adama. Ils en ont arrêté que Bagui Traoré.
Ouais, il y a clairement un acharnement.
Il y a un acharnement clair, quoi. C'est...
Mais du coup, là, ça veut dire que juridiquement, officiellement, il a purgé sa peine de prison pour ces faits-là. Et que du coup, là, il est en provisoire, en préventif, quoi.
Je pense que c'est ça, ouais.
Ouais, on a entendu qu'il était interrogé, c'est ce que disait Assal, il sera interrogé le 22 juin, donc a priori, dans cette histoire-là d'homicide.
Tentative d'assassinat, ils disent, ouais.
Ouais. Voilà. Elle le dit, d'ailleurs, Assal, si on est là, c'est parce qu'on est en train de lutter, c'est parce qu'on est en train de se battre pour Adama. Donc tout ça est lié, ça nous paraît assez évident. Les prochaines échéances, on l'a entendu, donc le 22 juin, l'interrogatoire de Bagui, donc ce combat-là qui continue, et puis évidemment, en parallèle, la lutte continue pour Adama, et le 19 juillet, ce sera donc les 1 an de sa mort, et une triste date, mais une date qu'on marquera aussi sur Canal Sud, on vous prépare là une journée avec quelques rendez-vous autour de ces 1 an et de cette lutte en particulier. Tu voulais dire quelque chose pour terminer?
Effectivement, on va parler dans le reste de l'émission d'autres commémorations tristes, d'autres crimes policiers, mais il reste que en fait, la lutte en soutien au Traoré, elle est importante pour nous parce que on continue du coup nous d'essayer notamment de donner de l'argent, enfin de récolter de l'argent pour les frais judiciaires, parce qu'on voit quand même qu'avec tout cet acharnement, ça s'accumule sévèrement. Donc c'est important. Et par ailleurs, cette histoire-là, elle est à la fois banale et extraordinaire, parce que banal parce qu'il y en a en moyenne un peu plus d'un par mois des morts des personnes tuées par la police en France. Mais on ne voit pas toujours d'une part une mobilisation d'une famille à ce point-là, qui maille un peu toute la France d'ailleurs, une mobilisation populaire assez importante par rapport à d'autres histoires. Il y a quand même 5 ans, je pense, on n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait une histoire de mort par la police qui aurait mobilisé autant de personnes. Donc voilà, il y a quelque chose qui est un peu, c'est peut-être un peu la goutte d'eau de trop, quoi, qui fait que cette histoire-là, et je pense que c'est intéressant politiquement de pousser cette histoire-là pour en faire quelque chose d'emblématique aussi contre les violences policières en général.
Et puisque tu parlais et d'argent et médiatisation, on précise pour terminer, pour être complet, que Assa Traoré vient de sortir un livre avec une journaliste qui s'appelle Lettre à Adama, qui est publié chez Le Seuil, et dont tous les évidemment tous les bénéfices de cette vente iront à leur combat judiciaire, que tu l'as dit, hein, ça engloutit tout ça, beaucoup d'argent. Allez,
on va s'écouter un peu de musique.
Ouais, tout à fait.
Tu parlais de goutte d'eau, la goutte d'eau de trop, il y en a eu d'autres, des gouttes d'eau depuis. Ouais. Et donc on reviendra après Bruit qui court.
Ouais, c'est une archive de 2010, hein, pas de justice, pas de paix.
Pas de justice, pas de paix, on reviendra sur l'affaire Aliziri dans la foulée.
Vidéo volée, les images sont claires. 5 contre 1 avec coup de pompe sur mes catères. Des jeunes ont assisté aux violences et veulent témoigner. Les médias sont informés du nom des agresseurs et de l'agressé. L'agressé fait la une des journaux. Français, grands-parents algériens, il est appelé le jeune Burley. Les agresseurs, eux, leurs noms ne sont jamais cités. Ils sont appelés forces de l'ordre ou policiers. Pas de justice. Le préfet annonce qu'il suivra personnellement l'affaire. Sur le lieu du drame, un graphe, justice pour mon frère. Les télévisions plantent leurs caméras devant un bloc de cité. Les jeunes sont filmés, capuches sur la tête et poids déformés. Le lendemain soir, les voitures brûlent. La France s'indigne comme son ministre de l'Intérieur. La mise en liberté des policiers profite de l'écran de fumée. Au matin, la nouvelle tombe, l'agressé est décédé. Pas de justice. Pas de justice, non, non. Pas de justice, pas de paix. Dans la France entière, les téléspectateurs découvrent les quartiers populaires. Pour les médias, la victime est oubliée, seules les émeutes sont traitées. Et ils diffusent l'image d'un type qui gueule, mort aux Français. On écoute le porte-parole du gouvernement qui rappelle le courage des policiers face aux casseurs. Un an plus tard, de ligne en bas de page, actualité, sursis et non-lieu dans l'affaire du jeune Beurre et des 5 policiers. Pas de justice. We'll be right back.
morts aux mains de la police sont individualisées et dépolitisées. Trop souvent, on parle de dérapage ou de bavure. Ou même, uniquement en parlant de violences policières. Or, il ne s'agit pas de cela. Ces actes sont le fait d'un système. Ces actes sont l'une des nombreuses manifestations de ce que nous appelons le racisme d'État. Une de ces manifestations les plus violentes.
En France, en 1959, il est né en 1940, à 120 km d'Alger. Il est arrivé en 1959 et s'est installé à Argenteuil, où il a vécu 50 ans. Il a travaillé dans une entreprise de transport pendant 50 ans, sans aucun problème. C'était quelqu'un, on l'appelait Tonton Ali, Ami Ali, parce qu'il va rendre service à beaucoup de gens, notamment aux résidents du foyer à Doma, parce qu'il était un peu lettré, il les aidait pour le courrier, etc. En juin 2009, il est venu ici pour acheter des cadeaux à son fils, Rachid, qui est handicapé. Il avait deux filles et deux garçons, et il était attaché notamment à ce garçon, Rachid, le dernier de ses enfants. Mais malheureusement, vous savez la suite, c'est ici que le 9 juin 2009 a eu l'interpellation vers 20h, et depuis, nous nous battons pour que la justice et la vérité soient mises à jour.
Il y a des batailles à mener. Il est de notre responsabilité à tous de mener ces luttes, de les faire connaître et d'y participer.
Madame Ziri, qui a souhaité, lors d'une rencontre solennelle là-bas dans son village en cette ville, prendre à part quelques membres du collectif, et elle nous a dit en cabine, dites-moi maintenant qu'on est seul, dites-moi ce que mon mari a fait. C'est sûr que si l'on tuait, il a dû faire quelque chose que vous n'osez pas avouer, parce que ça ne s'avoue pas sans doute. Mais dites-le moi, je suis assez forte pour entendre ce qu'a fait mon mari. Je lui avoue dire, Madame Ziri, votre mari n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'était qu'il était le passager dans une voiture. Et elle s'était fourrée en larmes. Elle aurait voulu, son mari, et pu faire quelque chose contre cette police, contre ces policiers, contre ces institutions, pour faire un peu de sens à cette histoire. Il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de raison. Et c'est pour ça qu'elle s'est effondrée. Elle ne pouvait mettre aucune cohérence là-dedans. Voilà l'état des lieux d'une famille qui a perdu un être cher.
Ali Ziri n'est pas mort parce qu'il était militant. Il n'est pas mort parce qu'il était prolétaire. Il est mort parce qu'il était arabe. Même le privilège de l'âge ne pouvait pas lui être reconnu.
Sachez bien que les trois policiers qui ont interpellé Ali Ziri étaient âgés. À l'époque des faits, entre 22 et 26 ans, alors que l'Algérie est à Ali Kefali, 69 ans, un septuagénaire, quelle morale!
On l'a traité de la manière dont la police traite toutes les personnes qui ne correspondent pas à la définition d'un Français. On l'a traité comme un sous-français.
Quelle culture au monde puisse accepter que des jeunes, qu'ils soient en uniforme ou non, s'acharnent contre un vieux? Est-ce qu'ils constituent un danger? Est-ce que les trois policiers ne pouvaient pas le maîtriser et le mettre, bon, littéral policier certes, le mettre dans ses cellules de dégrisement, mais sans le tabasser de cette manière?
Vous voulez commettre des violences et des crimes en toute impunité? Sans jamais être inquiété par la justice? Vous êtes insultant, violent, ne respectez pas le code de la déontologie? Méprisant, arrogant sont vos qualités? prêt à tuer sans être en état de légitime défense. En argent de poche, pour arrondir vos fins de mois, coller des outrages à agents, la police recrute et la justice vous protège et vous acquitte. Même si vous êtes coupable, ne vous inquiétez pas. On fera en sorte que vous ne le soyez plus. Nos syndicats sont puissants, alors n'attendez pas. La police est le meilleur métier pour être au-dessus des lois. Urgence, notre police assassine.
Elle tue sans scrupule les petits délinquants, les militants, les pauvres, les jeunes des quartiers. Mais ceux qu'elle cible, sans aucun préalable, ce sont les personnes racisées. Ali Ziri est mort parce qu'il avait le tort de ne pas être de la race blanche de Nadine Morano. Ali Ziri a été tué par le racisme d'État.
Nous avons utilisé toutes les procédures. La Cour de cassation, 16 février 2016, a rendu ses conclusions, soi-disant que il n'y a aucune responsabilité des policiers dans la mort d'Ali Ziri. Il n'en demeure pas moins que pour la famille et l'avocat et l'autopsie faite par Dominique Lecomte, qui est la directrice de l'Institut médico-légal de Paris, qui est une sommité dans la médecine légale, a conclu qu'Ali Ziri avait subi 27 hématomes sur le dos, soit tout son corps, est mort par anoxie, asphyxie, ce qui conclut à l'application de la technique de pliage, une technique létale, qui a conduit à la mort d'Ali Ziri lors de son transport d'ici jusqu'au commissariat d'Argenteuil, qui a duré 10 minutes. L'avocat a demandé la reconstitution des faits. Ça n'a pas abouti. L'avocat a demandé à ce que les policiers soient entendus par un juge d'instruction. Ça n'a pas été fait. La seule enquête sur laquelle le juge d'instruction a donc s'est appuyé, c'est l'enquête faite le 9 et le 10 juin par des policiers. Aujourd'hui, Stéphane Mongeau, l'avocat du collectif de la famille Ali Ziri, est convaincu que nous allons gagner. Donc il a introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme en juin 2016. Nous attendons avec détermination et espoir que la vérité et la justice et que les policiers soient condamnés. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Nous avons espoir, nous continuerons notre combat. Merci à tous et merci à toutes d'être venus ici nombreux et nombreux. Merci encore.
Alors vous venez d'entendre un petit montage, notamment avec les voix de Areski Kerfali qui était présent, c'est la dernière personne là, qu'on vient d'entendre dans ce montage-là, qui était présent lors de l'arrestation d'Ali Ziri, il s'est fait arrêter en même temps que lui. On a entendu aussi un membre du collectif unitaire antiraciste, pour une union antiraciste. On a entendu Amal Bentoussi dans un clip de Urgence Notre Police Assassine, qui appelle à s'engager dans les forces de l'ordre si on a envie de tuer des gens. Elle a eu un procès pour ça par Manuel Valls et elle a gagné son procès d'ailleurs. Voilà, et on entend aussi qui est-ce que j'oublie. Non, je crois que c'est tout, il y a tout le monde. Voilà, c'est les voix qu'on a entendues. Ici, il y a Omar Slaouti. Voilà, Omar Slaouti et Areski Kerfali étaient samedi dernier à Argenteuil, à l'endroit où s'est fait arrêter Ali Ziri. Ali Ziri s'est fait arrêter le 9 juin 2009, donc il y a 8 ans. Quasiment jour pour jour, et donc c'était une commémoration qui avait lieu à Argenteuil avec des prises de parole de tous ces différents soutiens. Donc comme on le raconte brièvement dans le son, il y a eu toutes sortes de procédures judiciaires qui ont lieu depuis 8 ans. La CAT vient de sortir un rapport sur le sujet. La CAT, c'est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est une ONG chrétienne de défense des droits de l'homme basée à Paris et qui avait notamment sorti un rapport en mars 2016 sur les violences policières, la force et l'ordre. On s'en rappelle, qui mettait en exergue les pratiques des forces de l'ordre à l'encontre des manifestants et des personnes des quartiers populaires. Tout ça, c'était au tout début du mouvement contre la loi travail. Je pense que depuis, il y a encore beaucoup à dire. Et la CAT, pour ce rapport de l'année dernière, s'était basée notamment sur l'affaire Ali Ziri. Et donc, elle vient de sortir un rapport spécifiquement sur cette affaire, sur le déroulement de, de le déroulement de la soirée du 9 juin 2009 et sur le déroulement de l'enquête judiciaire. Elle s'est posé trois questions, à savoir: le pillage a-t-il pu causer la mort d'Ali Ziri ? Le recours à la force était-il proportionné ? Et l'enquête judiciaire était-elle suffisamment impartiale et approfondie ? Alors, il faut savoir qu'Ali Ziri, il a été arrêté avec son comparse suite à un contrôle routier dans lequel ils se sont fait arrêter parce qu'ils étaient alcoolisés et puis agités, apparemment, selon plusieurs témoins. Donc, ils ont été embarqués. Et là, dans la voiture, ça ne se passe pas très bien. Ali Ziri s'agite encore plus, insulte, crache sur les policiers. Et donc, un des policiers se retourne, il était devant, hein. Il déclare: face à l'agitation de M. Ziri, je me suis retourné, dos à la route. C'est une femme, pardon. Elle déclare donc: je me suis retourné, dos à la route, les genoux sur le siège, j'ai attrapé M. Ziri sous l'aisselle gauche. Il ne se laissait pas faire, j'ai fait pression en le maintenant la tête plaquée sur les genoux. La fameuse technique du pliage qui aura duré 4 minutes 26, le temps du trajet jusqu'au commissariat. Arrivé au commissariat, Ali Ziri, selon la Commission nationale de déontologie et de sécurité, Ali Ziri a été littéralement expulsé du véhicule. Il est dans un premier temps jeté au sol, puis saisi par les quatre membres, la tête pendante, sans réaction apparente, et emmené dans cette position à l'intérieur du commissariat. À ce moment-là, un brigadier demande son transfert immédiat vers l'hôpital parce qu'apparemment, il n'est pas du tout bien en point. Et ça ne sera pas immédiat du tout, puisqu'il partira vers l'hôpital plus d'une heure plus tard, hein, vers 22h. Arrivé à l'hôpital, le médecin déclare: il était tout gris, ne répondait pas aux questions, il était inconscient, il a été conduit en salle de déchocage rapidement, j'ai pris son pouls, il n'en avait pas. Voilà ce qui s'est passé ce soir du 9 juin 2009. Et depuis, la famille multiplie les procédures judiciaires pour essayer de faire reconnaître l'assassinat d'Ali Ziri par les personnes des forces de l'ordre. Il se trouve qu'ils ont porté plainte dans les jours qui ont suivi. Pendant 2 ans, la justice a à peu près l'air de faire son travail. Ouverture d'une information judiciaire en juillet 2009. 23 septembre, les faits sont requalifiés en homicide involontaire, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Le 17 mai 2010, la Commission nationale de déontologie et de sécurité demande des poursuites disciplinaires contre les policiers pour usage disproportionné de la force et traitement inhumain et dégradant. Et le 29 juin 2011, donc 2 ans plus tard, la patatras, tout se retourne. Les parties civiles demandent au juge d'entendre personnellement l'ensemble des témoins, d'ordonner le visionnage de la vidéosurveillance du commissariat à l'arrivée du véhicule de police et de procéder à une reconstitution des faits. Cette demande sera rejetée 1 mois plus tard par le juge, puis suivi 1 an plus tard, en octobre 2012, d'une ordonnance de non-lieu. La cour d'appel de Versailles confirme le non-lieu en 2013. En 2014, la cour de cassation annule le non-lieu et demande à la cour d'appel de Rennes de réexaminer l'affaire. Et en décembre 2014, la cour d'appel de Rennes confirme le non-lieu. Donc voilà, ça n'en finit pas, la torture judiciaire pour cette famille. Le 16 février 2016, il y a 1 an, la cour de cassation rejette le pourvoi en cassation, confirme le non-lieu, l'affaire est définitivement close en France, et donc, comme on l'entendait dans le son, l'avocat a décidé de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. On en est là, ça fait 1 an que ça a été porté, il pourrait bien y en avoir encore pour 1 an. Voilà, la CAT dénonce donc une mascarade judiciaire, en fait, hein. C'est pas leur mot, c'est les miens, mais... En gros, ce qu'ils disent... Attendez que je retrouve mes notes. Ils disent que tout ça révèle une forme de banalisation de l'usage de la force qui conduit des agents à pratiquer un geste potentiellement létal sur un sexagénaire pour l'empêcher de cracher ou proférer des insultes sans s'interroger sur le caractère disproportionné de ce geste. Ça révèle aussi des négligences importantes concernant la prise en charge médicale des 2 hommes qui, malgré les circonstances, ont attendu plus d'une heure avant d'être conduits à l'hôpital. Les investigations ont été réalisées prioritairement par des pairs et bien que ce soit en son pouvoir, le juge d'instruction a pour sa part refusé de procéder lui-même au complément d'enquête sollicité par la famille Ziri, s'appuyant sur les seules conclusions des enquêteurs. Donc la CAT demande une réforme en profondeur de l'institution policière et à questionner les principes de la pratique du recours à la force au regard du droit international, l'interdiction de certaines armes ou techniques d'intervention, et une vaste réforme du système d'enquête lorsque des faits visent des policiers ou gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, c'est des recommandations qu'on pourrait trouver, nous, de notre côté, un petit peu gentilles, mais c'est quand même la CAT qui a un certain poids. Il y a 30 ACAT qui existent dans le monde, plus de 40 000 adhérents, ils luttent au quotidien contre la torture, et ils savent un peu de quoi ils parlent, c'est une enquête sérieuse. Donc on peut... voilà, on s'imagine que ça ne sera pas suivi des faits, a priori.
Oui, et puis surtout, peut-être tu peux nous dire un mot, Mathieu, donc avec qui on est toujours là dans le magazine pour faire un petit tour d'horizon des différentes affaires de violences policières, enfin de quelques-unes des affaires de violences policières et des luttes qui les entourent. Mathieu, tu peux peut-être nous dire un mot, c'est vrai que ça revient tout le temps, ce qu'on a entendu là, le parcours du combattant, de la famille et des proches d'Ali Ziri pour obtenir que justice soit faite. Justice n'est pas faite à la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les affaires quasiment de crimes policiers, quoi.
Ouais, c'est systématique. Déjà, c'est un combat. Enfin, il y a des combats. Tout est combat, en fait, dans le parcours d'une famille, d'une personne qui a été tuée par la police. Et ça commence déjà sur, généralement, l'autopsie, qu'il faut se battre pour exiger une contre-autopsie. C'est déjà la première étape, maintenant. C'est quelque chose qui est acquis parmi les mouvements de soutien aux familles. Et quand il y a un cas, ils vont voir les familles pour leur dire surtout exiger une contre-autopsie, parce qu'on voit que toutes les autopsies qui ont fait l'objet d'une contre-autopsie ont été contredites par la deuxième autopsie. C'est un combat que la plainte soit acceptée, c'est un combat que des témoins soient auditionnés, parfois que les vidéos de la scène puissent être récupérées. C'est extrêmement rare qu'elles le soient. Voilà, tout est un combat, que les policiers soient entendus, que les... Il faut se battre pour tout, quoi. Et en plus de ça, si la famille, du coup, ne s'intéresse pas trop aux choses et laisse couler ce qui arrive, ça va, ça s'éteint tout seul, entre guillemets. Et donc, mais si la famille a malheur de se battre, alors là, en plus de ça, il y a un autre combat qui s'ouvre, c'est le combat médiatique. Et à ce moment-là, on va salir déjà la victime. Et puis éventuellement on va salir la famille, comme ça se passe pour les Traoré en ce moment, quoi.
Du coup il faut peut-être le rappeler encore une fois dans cette affaire, et puis c'est ce qui est apparent dans toutes les affaires, même dans celles qui vont venir dont on va parler, la justice protège clairement l'institution policière, ne peut pas supporter qu'on remette en question l'institution policière. C'est ce qui s'est passé à Rennes, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, on est dans un système qui clairement a ses deux jambes, quoi. La police d'un côté, la justice derrière, quoi. Et notamment ce que dit Amal Bentoussi dans le petit clip de Urgence notre police assassine, cette histoire des outrages, qui est aussi une manière de grossir les salaires des policiers, clairement.
En tout cas de certains policiers, oui, clairement.
Et donc oui, on ne l'a pas dit clairement, mais il n'y a pas eu de prison ferme pour des policiers qu'on tuait des gens. Ça n'est pas arrivé, il y a eu du sursis parfois, et c'est le maximum qui a pu être obtenu, je crois. Et du coup, c'est intéressant, je crois, dans un article de BuzzFeed dont on parlait avant l'émission, il y a un petit comparatif qui est reproduit d'un rapport soit de la CAT, soit de Amnesty, je ne sais plus, qui compare les peines, les quelques peines qui ont été prononcées contre des policiers et les peines, par exemple, contre des manifestants ou des voleurs de poules ou de fromage dans les supermarchés. C'est ahurissant.
Des disproportions. Oui.
C'est 6 mois de prison ferme, 1 an de prison ferme pour des petits délits, pour avoir craché sur un policier, pour je sais pas quoi, ou voler un fromage. Donc c'est arrivé il n'y a pas longtemps à Toulouse, la prison ferme pour du fromage. Et que dalle. Que dalle, la plupart du temps, et parfois du sursis pour les policiers qui tuent des gens, quoi.
Et qui continuent à exercer, du coup.
Et oui.
Voilà. Alors, on reviendra tout à l'heure sur cet article de BuzzFeed et sur l'affaire Rennaise, mais on va avancer dans l'émission. Autre triste anniversaire et autre mort par la police, Lisa, Lamine Dieng, c'était il y a 10 ans.
Oui, voilà, le triste anniversaire du meurtre de Lamine Dieng par la police. Donc, ce sera commémoré le 17 juin 2017. Donc, un petit rappel des faits. Donc, le 17 juin 2007, les policiers ils sont appelés pour tapage nocturne dans le 20e arrondissement de Paris, rue Bidassoa. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Lamine Dieng qui est allongé entre deux voitures. Il semble agité. Et plus tard, les analyses révéleront la présence de cocaïne et de cannabis dans son sang. Les policiers décident donc de l'interpeller pour sa sécurité, se défendront-ils. Ne parvenant pas à le maîtriser, ces derniers décident d'appeler des renforts. Lamine est alors immobilisé, pieds et mains liés. Il est ainsi transporté dans le car de police et mis face contre terre. Les cinq policiers s'agenouillent sur lui, dont un sur sa tête, et l'expertise médico-légale rendra compte d'une trentaine d'hématomes sur le corps de Lamine. À 4h29, Lamine Dieng, 25 ans, français d'origine sénégalaise, décède d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial. Donc technique qui a été aussi utilisée pour Ali Ziri et Adama Traoré, dont on a déjà parlé. Donc, en juin 2014, la Chambre d'instruction de Paris a prononcé un non-lieu, qui a été confirmé en appel en juin 2015. La famille de Lamine s'est donc pourvue devant la Cour de cassation qui instruit l'affaire depuis. Elle se bat donc pour que justice soit faite et elle se dit aussi prête à aller jusqu'à la Cour européenne si la Cour de cassation elle confirme le non-lieu. Et donc, cette commémoration elle servira à rendre hommage à Lamine et à toutes les autres victimes de crimes policiers, et d'exiger donc justice et de dénoncer l'impunité policière.
Ouais, il y aura également dans d'autres villes de France hein, des hommages et des points, enfin des points, des rassemblements pour continuer la lutte autour de Lamine Diang, notamment à Marseille. Alors on ne va pas revenir. On a entendu encore la justice, c'est à peu près le copier-coller de l'affaire Ali Ziri. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de parler de l'asphyxie. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans cette émission. Des clés d'étranglement, des choses comme ça, ce sont des choses qui sont enseignées dans les écoles de police en France, alors qu'elles sont interdites dans la totalité. Tenez-vous bien, dans la totalité des pays frontaliers de la France. Ces clés d'étranglement, ces choses-là sont interdites en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, etc. etc. Et il y a deux pays où on les retrouve énormément dans des morts par la police, c'est les États-Unis et la France.
Mmh. Ouais, ouais, bah du coup, bon, moi je suis pas très à l'aise avec ça parce que on voit bien que. Enfin, je sais pas, au bout du bout, ce serait quoi ? Alors oui, c'est sûr que ça ferait peut-être moins de morts si ces techniques étaient interdites. On voit bien qu'il y a, de toute façon, ils arrivent toujours à tuer par bien d'autres moyens, quoi. Par balles, on l'a vu, par 10 balles. Et puis, le climat actuel, de toute façon, est pas du tout à restreindre les possibilités d'action des policiers, mais plutôt exactement l'inverse, de leur donner plus d'armes, de leur donner plus de droits. Et on voit que la dernière réforme instaure une sorte de présomption de légitime défense va exactement dans ce sens-là. Je ne sais pas bien comment il législe, enfin légalement, c'est possible ce truc-là, mais apparemment ça renverserait un peu le système de preuve, c'est-à-dire qu'il faudrait prouver que les policiers n'étaient pas en légitime défense pour pouvoir tuer quelqu'un, c'est-à-dire ouvrir le feu. Comme par exemple les gendarmes aujourd'hui, il suffit qu'ils disent, qu'ils fassent une sommation et ils ont le droit de tirer après, quel que soit le. Donc bon voilà,
les circonstances.
Ouais. Voilà la tendance. Enfin oui, on peut se poser effectivement la question des techniques employées par la police qui ne devraient pas l'être. D'une part, bon, je sais pas si c'est vraiment ça qui résoudra vraiment le problème. Et par ailleurs, clairement, l'histoire est dans l'autre sens quoi en ce moment quoi.
On peut dire aussi que tu parlais de la récupération d'une technique des gendarmes qui est maintenant, enfin un droit qui est donné aux policiers sur la légitime défense. Les gendarmes, c'est un corps de l'armée, ouais. Clairement.
Ouais.
Et là, on donne à des policiers, donc qui sont censés respecter l'ordre civil, enfin faire respecter l'ordre civil, voilà, des pouvoirs militaires, clairement, quoi.
Ouais. Mais par contre, je voulais en profiter juste pour vraiment, je pense qu'il faut. En ce moment, on a quelques figures un petit peu qui sont émergées ces dernières années, notamment Amel Bentounsi autour de Urgence Notre Police Assassine. Je pense qu'il faut vraiment saluer Ramata Dieng, donc la sœur de Lamine Dieng. Qui en fait a été une des personnes qui a un peu impulsé, je trouve, historiquement, un peu tout ce nouveau mouvement de familles de victimes qui a remonté quelque chose, en fait, avec Vivolet, et qui a porté ce combat pendant très longtemps, un peu seul, qui a passé beaucoup d'énergie. Et là, elle a fait une pause pendant un long moment, là, on la revoit un peu revenir, et franchement, c'est quelqu'un de chouette pour l'avoir rencontré qui est vraiment méritante quoi, qui a vraiment vraiment beaucoup lutté et qu'on connaît moins, et voilà, donc je voulais juste la saluer.
Ouais, on la salue. Moi, je reviens quand même vite fait sur cette histoire-là. J'entends tout à fait ce que tu dis quand tu dis qu'effectivement, ce n'est pas l'interdiction de ces techniques de clés d'étranglement, etc., qui vont mettre fin aux exactions policières, aux crimes policiers. Mais enfin, quand même, ce sont des techniques qu'on apprend aux aspirants policiers, aux jeunes policiers, en leur disant que c'est des techniques non létales, que c'est tout à fait utilisable pour contrôler quelqu'un de manière proportionnée, etc. Or, c'est faux. Ça tue, et ça tue énormément. C'est la même chose que les armes soi-disant non létales, que sont les flashballs et les tasers. Évidemment, que si on les enlève, il y aura toujours des morts par la police, mais enfin quand on donne des armes aux gens et qu'on leur dit ça ne tue pas, vous pouvez les utiliser, ben si, ça tue, le taser tue, le flashball tue, ces clés d'étranglement tue, voilà. Non,
et puis en plus du coup il y a clairement une responsabilité de l'État là-dessus, puisque là il y a un non-lieu pour le cas de la Mindyeng, parce que finalement les policiers ont respecté une procédure. Ils avaient le droit de faire ça, en fait. Ils avaient le droit, a priori, je sais pas, il me semble, de pratiquer cette technique. Et donc, de leur point de vue, il n'y a pas de faute. Et du point de vue légal, il n'y a pas de faute. Si l'État permet, enseigne ces techniques et les permet, effectivement, oui, j'ai peut-être un peu répondu de manière un peu...
Non, mais après, on est bien d'accord qu'effectivement, ça ne suffira pas à mettre fin à ce problème. Alors, on a parlé plusieurs fois d'Amal Bentounsi dans cette émission. Donc, tu l'as dit, elle anime le collectif Urgence Notre Police Assassine. Elle l'avait créé, ce collectif, suite à la mort de son frère, Amine. C'était le 21 avril 2012, tué d'une balle dans le dos par un policier. On en reparle d'Amal Bentounsi parce qu'elle a fait une nuit de garde à vue, une journée de garde à vue il n'y a pas très longtemps. Elle a été arrêtée le mercredi 7 juin au soir, elle a été libérée que le lendemain après-midi. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elle était en train de filmer un contrôle, une interpellation policière avec son téléphone portable. Ça, y a, évidemment, comme c'était Amal Bentounsi, ça a réagi dans les réseaux sociaux et autour de ses proches, etc. Il y a eu un peu de tapage et elle a fini par... être libérée. Il faut préciser qu'elle n'a aucune poursuite, n'est revenue contre elle. Alors, elle avait été interpellée officiellement pour divulgation d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée et rébellion. Alors bon, la rébellion, évidemment, forcément, ça c'est ce qu'ils mettent à chaque fois quand ils essaient d'arrêter une personne. Visiblement, elle ne s'est pas du tout rebellée, mais bon, ça mange pas de pain pour les policiers de dire il y a eu rébellion. Par contre, la divulgation d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée, on croit rêver, c'est incroyable. Je veux dire, ça se passe dans la rue, c'est des agents payés par l'État, enfin bon, qu'est-ce qui est privé là-dedans? Alors elle a quand même dit que c'était évidemment pour elle une affaire tout à fait anecdotique, mais elle a quand même dit si au moins ça a pu servir à ce que tout le monde sache qu'on a le droit de filmer des interpellations, c'est déjà ça. Et c'est effectivement ce dont on veut parler maintenant, c'est qu'effectivement non seulement on a le droit de filmer les contrôles policiers, les interpellations policières, mais même un certain nombre d'associations disent il faut le faire, ça peut sauver des vies, en tout cas sauver des gens de situations extrêmement périlleuses, quoi.
Et puis fournir des éléments lors d'un éventuel procès qui sont... Enfin, autant je crois que les quelques procès qui ont abouti à des légères, mais des condamnations quand même, c'est parce que bien souvent, il y avait une vidéo, quoi. Et s'il n'y a pas ça, on en revient à l'histoire de la version policière qui n'est jamais remise en cause. Et d'ailleurs, sur l'arrestation d'Amal, il y a un truc intéressant, c'est que les articles de presse qui en parlait, racontait une version policière complètement exagérée. Mais alors, encore une fois, c'est anecdotique, cette histoire-là, par rapport au meurtre dont on parlait avant. Mais il était question, dans un article du Parisien notamment, il disait elle a été arrêtée parce qu'elle filmait, mais aussi parce qu'elle avait ouvert la portière de la voiture dans laquelle le jeune se faisait arrêter. Et je ne sais pas d'où ils ont sorti ce truc-là. On voit la vidéo, on voit très bien que ça n'a rien à voir. Il suffisait à ce que les journalistes, entre guillemets, du Parisien regardent à la limite cette vidéo juste une fois pour qu'ils comprennent que cette version manifestement policière, c'est forcément des policiers qui leur ont dit ça, était absolument fausse. Et donc, comme pour l'histoire de Michael Simon, ou alors par exemple dans l'article de la Dépêche du Midi, on trouve quelque chose du genre « Les policiers n'ont alors pas eu d'autre choix que de tirer sur la voiture que conduisait Michael Simon. » C'est quand même hallucinant, ce genre de parti pris policier pour la police de la part des journalistes, quoi.
Oui, puis immédiat, avant même qu'il y ait la moindre enquête, le parti pris et la collusion est immédiate.
Ouais. C'est ça, parce que dans le cas d'Amal Bentounsi, pour le coup, c'est dans les heures qu'on suivit que le Parisien a relayé cette information. Il y a eu plusieurs versions, en fait, parce qu'il y a aussi eu la version du fait qu'il a refusé un contrôle d'identité. Alors la vidéo est disponible sur le Facebook de Urgence Notre Police Assassine, ça dure un quart d'heure, on y voit tout ce qui se passe. Et clairement, elle a un contrôle d'identité, elle s'y soumet de bon gré, il n'y a absolument pas de rébellion à ce niveau-là. Il y a une autre vidéo qui complète, qui montre son arrestation, où elle est clairement brutalisée. Et voilà, tu parlais de combat médiatique, là, il y a clairement, dans les heures qui suivent, tout un tas de grands médias, à savoir Le Parisien, il y a Europe 1 qui a repris l'histoire, il y a Valeurs Actuelles, donc des grands médias copains, hein, des gens qu'on aime bien, qui déroulent des trucs hallucinants, sans la moindre vérification, sans le moindre... Voilà, là, la déontologie journalistique, on peut en reparler, de tous ces gens qui se disent neutres et objectifs.
Oui, enfin là, est-ce qu'il y aurait, de quoi faire plein d'émissions, là.
Et donc, sur le droit de filmer, donc, enfin, du coup, c'est fort utile, on le voit bien, mais du coup, il y a cette histoire qui permet de rappeler que c'est légal. Les policiers font partie de l'espace public, et donc, quand ils sont en intervention sur l'espace public, on a le droit de les filmer. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle loi qui, sur certaines unités, l'interdit, tout ce qui est terroriste, etc. Mais c'est hyper utile d'avoir sur soi en permanence, je pense qu'il n'y a personne qui le fait, mais bon, à part quelques journalistes qui suivent des manifestations, il y a une circulaire de 2008 du directeur de la police nationale qui rappelle aux policiers qu'ils n'ont pas à s'opposer au fait d'être filmés quand ils sont en intervention sur l'espace public. Cette circulaire, c'est particulièrement utile de l'avoir sur soi quand on se fait embêter par des policiers qui ne veulent pas être filmés.
Alors pour préciser, juste les policiers ont rétorqué à Malbentoussi, on le voit sur la vidéo, que effectivement on avait le droit de filmer ce qui se passait, il n'y avait pas de souci. Par contre, ils lui ont reproché de diffuser en direct sur Facebook la vidéo.
Ouais.
Voilà, c'est ça qui s'est passé. Bon, il se trouve qu'elle a été libérée sans aucune charge contre elle le lendemain, donc bon.
Oui. Et par ailleurs, le commissariat où elle était arrêtée a reçu une avalanche de coups de fil pour protester contre son arrestation. Ça a pu jouer aussi, non ?
Oui, la mise en éveil de tous les réseaux a été immédiate. Alors, on va quand même préciser pourquoi c'est utile de filmer l'action policière. Bon, ça sert à protéger, ça peut servir de preuve, et puis ça sert aussi à sensibiliser sur les questions des violences policières. C'est en tout cas ce que dit un petit article qu'on trouve sur Paris Lutte Info, paris-lutte au pluriel.info, pareil, hein, l'espèce de yata mais parisien là ce coup-ci. Article qui s'appelle « Filme un flic, sauve une vie, petit guide juridique pour filmer la police ». Dans cet article, vous trouverez notamment une compilation de documents, comme ceux dont tu parlais, Mathieu, qui permettent effectivement, si la police vient vous dire que vous n'avez pas le droit de filmer, vous les sortez, c'est des documents officiels qui montrent bien que si, on a le droit de filmer. Alors pourquoi est-il légal de filmer l'action policière ? Eh bien, ça ne porte pas atteinte à la vie privée du policier, étant donné que celui-ci exerce une fonction publique, voilà, d'une part, et si un flic est en droit de vous demander d'arrêter de filmer ou de supprimer vos images, cette demande n'a aucune valeur obligatoire, nous précise l'article, et vous êtes en droit, vous, de refuser d'y accéder. Les flics ne peuvent en aucun cas vous empêcher de filmer ou de prendre des photos. Ils ne peuvent pas vous obliger à supprimer vos photos ou vidéos. Ils ne peuvent pas vous confisquer votre matériel ni le détruire. Le seul motif valable pour la confiscation temporaire du matériel est le placement en garde à vue pour un délit. Bon, ça c'est la loi. On sait que dans les faits, des confiscations et des empêchements de filmer, il y en a énormément. Et alors tu disais qu'il y a quelques corps de police et de forces de l'ordre qui quand même ne peuvent pas être filmés, c'est vrai. La seule exception donc à ce droit de filmer les flics et potentiellement d'en diffuser les images concerne certaines brigades d'intervention de la police ou de la gendarmerie, à savoir la BRI, le RAID et le GIGN. Voilà, donc ça concerne absolument pas la plupart des policiers que vous pouvez voir, police nationale, lors de contrôles d'identité de routine, notamment dans les quartiers populaires.
Mais par ailleurs, ils sont en train de trouver la parade en fait à ce droit, qui est que désormais ils vont avoir tout un tas de dérogations qui leur permettront de porter la cagoule quand ils voudront, par exemple, pour tout un tas de raisons, notamment qu'ils interviennent à proximité du domicile d'un policier. Alors ça peut être un peu n'importe où. Donc voilà, ils vont peut-être pas revenir en arrière sur le droit de filmer les policiers. Par contre, on pourra peut-être plus identifier du tout les policiers qui seront sur les images.
Allez, c'est le moment de faire une petite pause musicale dans ce mag, et après on continue, on parlera donc de cette affaire à Rennes, hein, d'un policier qui a braqué la foule et des procès qui en a suivi. On parlera également de Jérôme Laronze, agriculteur de Saône-et-Loire, abattu par les gendarmes il y a quelques semaines.
Les chômeurs et précaires qui s'étaient donné rendez-vous pour défendre leurs droits. Et ce même jour, dans les rues de la ville, il y avait la...
Ah, c'est quand même bien réconfortant de se sentir protégé par des policiers aussi actifs et aussi vigilants. Ah, ça... C'est bon, je
poignard qui vont pas tarder à s'amener.
Change, pouvoir, rien n'est prêt de changer. La justice est absente, nos droits sont en danger. Urgence, urgence. Le constat est acide, la population reste assise pendant que l'État assassine. Crois-moi, on connaît les tactiques, les lois contre patronat, la mécanique raciste. On parle au prolétariat de brutalité étatique. Disent que la violence vient d'en bas quand ta bourgeois vient sa chemise. Or, si on n'est pas encore en taux, c'est qui nous tolère. Chantage à l'embauche, logement précaire, échec scolaire. Écho de l'époque quand les coups sont portés du sommet qui prime les manifs de Gaza, mais pas les jaunes de colère. On a la haine, la fête est annulée. Cette année, c'est leur tête, pas des voitures qui vont brûler. Partisans de l'autodéfense avant de finir acculés. La seule violence qui nous effraie vraiment serait encore reculée. Oh, c'est la guerre de classe, c'est pas d'armistice. Non, y'aura pas de paix tant qu'il y aura pas de justice. Non, y'aura pas de trêve, pas de combat partiel. Car le changement vient des victoires que l'on parcelle.
Rien ne change. Rien ne change.
Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question politique. La police leur tire dessus,
Plus personne en moyenne sont tués chaque année par la police. Aucune condamnation de la part de la justice. C'est inadmissible que la justice ne condamne pas ces crimes.
Alors ce qu'on vient d'entendre là, les 10 dernières petites secondes, avant c'était la vermine, et ce qu'on vient d'entendre c'est un petit son, ça se passait le 27 avril dernier à Rennes, dans la manifestation, donc c'était une manifestation d'entre-deux-tours, une manifestation qui s'est déclinée un peu partout en France, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le mot d'ordre c'était ni patrie, ni patron, ni marine, ni Macron. Il se trouve qu'il s'est passé plusieurs choses pendant cette manifestation, notamment un flic en moto qui a un peu galéré à démarrer sa moto et puis qui s'est fait prendre un parti un peu par des personnes en tête de cortège qui ont couru vers lui. Et alors là, le réflexe du flic en question, ça a été de dégainer son arme, donc son arme à feu, hein, là pour le coup, on n'est pas sur de la matraque ou autre, là on est vraiment sur une arme à feu. Il a dégainé son arme, il a braqué les manifestants, ça a duré 12 secondes, les gens, on l'entendait un peu mal dans le son parce que forcément c'est pris d'un peu loin avec un téléphone, mais les gens lui intiment de baisser son arme, ce qu'il ne fait pas. Jusqu'à ce qu'une voiture le rejoigne et qu'il puisse réenfourcher sa moto pour repartir tranquille. Les services du préfet Christophe Mirmand, donc le préfet de Rennes, nous dit dans la foulée que le policier, dans un réflexe de légitime défense, a sorti son arme de service et a mis en joue un des individus cagoulés avec sang-froid, tempérance et modération. C'est beau, c'est superbe.
Quel poète.
Ouais, c'est grand poète. À savoir que la personne qui aurait agressé ce policier était porteur d'un pommeau de douche. Voilà.
Qu'elle portait sans modération et sans tempérance, il faut le préciser.
Voilà, du coup, ça s'est passé à cette manifestation. Et puis, donc, il s'est passé plein de choses, hein, dans cette manif. Il y a eu ça. Il y a eu des différentes... alors, à un moment, il y a trois quarts de la CIR, la brigade d'intervention, qui ont foncé dans le cortège et traversé la manifestation pour prendre position un peu plus loin. Il y a une charge violente qui a eu lieu à proximité du pont de Nantes, faisant plusieurs blessés, dont un passant. Plusieurs nasses, ponctuées de fouilles et de provocations diverses. Une nasse dont on va reparler, puisque une des personnes qui s'est faite nasser a été embarquée par la police. Son procès a eu lieu la semaine dernière et a tourné un peu au grand n'importe quoi. Voilà, donc c'était une manif. Comme le dit le communiqué du syndicat, syndicat Sud PTT, hein, des salariés de la Poste, la manifestation a été marquée par une organisation militaire du dispositif policier regroupant à nouveau la BAC, la BST, la CIR, un hélico et une escouade de gendarmes mobiles. On parlait de militarisation tout à l'heure, on y est, c'est superbe. Dans la foulée de cette manifestation, le 30 mai, donc un mois après, à Rennes, des policiers font sauter des portes, béliers, boucliers, cagoules, armes de poing, fusils d'assaut, des dizaines de policiers qui débarquent chez 7 personnes, des appartements sont retournés, ces personnes sont arrêtées. Mais alors pourquoi donc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, retournement de situation, le policier qui a dégainé son arme s'est fait reconnaître un jour d'ITT pour dommage psychologique, figurez-vous. Et la pression policière s'est encore accrue contre la manifestation avec 3 arrestations arbitraires. Ça, c'est pour le procès d'après. Alors du coup, voilà, les gens qui se sont fait arrêter, c'était donc le 30 mai. Le lendemain, 5 des 7 personnes qui ont été arrêtées ont été présentées devant le tribunal en comparution immédiate. Elles seront toutes envoyées en détention préventive en attente de leur procès le 21 juin prochain, après avoir demandé un délai pour préparer leur défense. Ceci leur sera notamment reproché par la juge comme une preuve de leur dangerosité qui justifie un mandat de dépôt. Alors là, on est vraiment c'est du grand n'importe quoi, quoi. Le préfet de région qui s'est occupé de la répression des mouvements politiques à Rennes jusqu'au printemps 2016, à savoir, a été nommé depuis chef de cabinet du président de la République. Ça, c'est une petite information. Et il était passé entre-temps au ministère de l'Intérieur. Donc, on ne s'attend pas à ce que tout ça s'améliore. Ces gens qui se sont fait embarquer sont en attente de leur procès. Ça sera le 21 juin prochain à Rennes.
Donc, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, d'ores et déjà, on peut se mobiliser. Alors, il y a plusieurs témoignages sur cette manifestation, hein, notamment une étudiante qui était présente et qui raconte, elle dit « Il y avait des mouvements incompréhensibles de la police. De notre côté, on était dans la crainte permanente de se faire nasser parce que toutes les dernières manifestations à Rennes ont fini comme ça. Et la dernière fois, le soir du premier tour, c'était très violent. Donc, à partir de ce moment-là, c'est normal qu'on se mette parfois à courir pour ne pas se faire encercler. L'histoire avec le motard, c'est ça qu'il s'est passé. On voulait pouvoir accéder aux voies ferrées. Le blocage de la gare, c'est quasi rituel à Rennes depuis qu'on nous a interdit le centre-ville. Je pensais que les motards allaient de toute façon s'éloigner comme ils le font à chaque fois. Courir vers eux, ça nous laissait une chance de passer, sauf qu'un des motards est resté, par fierté peut-être. Il est descendu de sa moto, les gens lui ont dit de partir, il est remonté sur sa moto mais elle n'a pas démarré. Là, il en est redescendu et il a braqué les gens. Après qu'il ait rangé son arme, il est remonté tranquillement sur sa moto. C'était la première fois que je voyais une arme à feu braquée comme ça sur nous, ça m'a saisi d'effroi. J'ai vraiment eu peur, j'ai vu la scène de loin mais j'ai été impressionné par ceux qui restaient face au motard et qui lui disaient de se calmer et de baisser son arme. Donc voilà, alors d'autres témoignages des personnes qui étaient présentes lors de l'interpellation un mois plus tard dans ces appartements de militants et militantes rennaises qui disent notamment, ils ont mis une demi-heure à ouvrir la porte blindée, en fait ils l'ont défoncé avec leur bélier de telle manière qu'il n'était plus possible de l'ouvrir de l'intérieur. On a été réveillés par le bruit mais on ne pouvait même pas les aider à ouvrir la porte parce qu'elle menaçait vraiment de nous tomber dessus. Donc on n'a plus bougé. Quand ils sont enfin parvenus à entrer, on s'est tous couchés par terre. Ils nous ont dit qu'on avait bien fait de le faire, car dans le cas contraire, ils nous auraient défoncés. Ils sont entrés avec un bouclier et tous étaient cagoulés. Et alors, la petite blague pour finir, le premier truc qu'ils ont fait, c'est d'enlever leur cagoule pour se prendre en selfie devant la porte détruite. Tu vois le genre. Dans une autre habitation, au même moment, la police détruit aussi la porte et commence direct par la chambre d'enfant où se trouve un bébé de 10 mois. Et alors là, les parents racontent, on a été réveillés en entendant des grosses voix dans le babyphone de la chambre de la petite. Ça m'a donné le privilège d'avoir le temps d'enfiler un pantalon avant de me faire braquer, mettre au sol et menotter, puis d'attendre presque une heure dans le jardin avec mon autre coloc qui lui était en caleçon. Ma compagne a pu rejoindre notre fille au bout d'un quart d'heure, mais a dû lui donner son biberon entouré d'une dizaine de flics cagoulés. Il n'y avait qu'une seule femme flic parmi eux et c'était la seule à ne pas avoir de cagoule. C'est donc elle qui s'occupait de ma fille en attendant que ses collègues laissent enfin ma compagne la reprendre. Les autres flics l'appelaient maman, ils avaient anticipé la présence de l'enfant et ils sont allés le chercher avant de nous réveiller. Quand on gueulait contre cette intervention de taré en présence d'un bébé, ils nous répondaient « on ne fait pas n'importe quoi, nous aussi on est père de famille ». Moi je sais pas si à leurs yeux je suis un bon père de famille, mais ça me viendrait pas à l'idée de réveiller un bébé avec un flingue et une cagoule. Ils faisaient partie de la BAC, ils portaient l'uniforme, mais sur leur écusson on pouvait lire notamment « surveiller et punir, BAC Roazon ». Avec un personnage de faucheuse. Voilà, bon, des témoignages comme ça, il y en a un paquet pour cette arrestation musclée qui relève un peu du grand n'importe quoi. La procureure, donc, lors des comparutions immédiates, elle se lance dans une étonnante plaidoirie contre le droit de la défense à garder le silence et à refuser d'être jugée en comparution immédiate, tout en concédant qu'il s'agit bien là d'un droit inscrit dans le code de procédure pénale. Elle veut d'abord y voir la preuve d'une culpabilité, que les accusés désirent se défendre dans les meilleures conditions, dénote de toute évidence d'un rejet de l'État. Et elle dira « Quand on est innocent, dit-elle, on est dans la survie et on cherche à prouver son innocence dès qu'on le peut. » Super ça, hein, sur les comparutions immédiates.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, ça nous mène à un procès, donc le procès de la personne qui s'est faite nasser à la fin de cette manifestation du 27 avril. Hein. Ce procès, c'était le 7 juin, donc c'était la semaine dernière. Et alors là, procès complètement ubuesque. La personne est accusée d'avoir jeté des projectiles sur deux agents de la BAC. La personne nie, et puis est portée une vidéo qui montre que cette personne était présente et qu'elle était en train de filmer la scène. La scène de la manifestation, hein, de la NAS, avec les gendarmes qui étaient là et les baqueux. Il filme avec la caméra dans une main, dans l'autre main il a une chaise pliante, il est absolument pas cagoulé. Et surtout le film, il ne se passe rien d'autre que ça, à part un moment où il ramasse quelque chose. Et alors là... L'accusé répond qu'il récupère une coque de grenade. Et on voit clairement sur la vidéo que l'objet roule en direction de l'accusé, qui est alors sur le trottoir en train de filmer. Du coup, c'est ça qui se passe. Et alors, il y a deux témoins qui rentrent pour expliquer que oui, effectivement, cette personne n'a rien fait d'autre que filmer ce qui se passait. Et qui accusent clairement les policiers d'avoir glissé dans la poche de l'accusé des pierres qui prouveront que cette personne a jeté des pierres sur les baqueux. Du coup, quand l'officier de police judiciaire demande si les policiers ont menti sur les jets de projectiles à l'accusé, il répond « Cela ne va pas plaire au procureur, mais là, je réponds oui. » Et donc, les témoins sont clairement, on leur rappelle que le faux témoignage vaut cher, que tout ça est dangereux, qu'il faut faire attention et tout. On rappelle que les témoins ne connaissent absolument pas l'accusé. Donc voilà, le procès se poursuit, l'avocat des policiers prend la parole, puis le procureur qui défend le pacifisme et le droit de manifester. Le procureur demande quand même un 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. L'avocat de la défense prend la parole, il est interrompu sans arrêt par le juge pour des histoires de bruit dans la salle ou de gens qui mangent, des trucs superbes. Et suite à ça, les témoins sont rappelés dans la salle, puisqu'elles étaient en salle d'isolement, hein, pour pas pouvoir se mettre d'accord sur leur témoignage. Elles sont rappelées dans la salle, on leur demande de confirmer leur témoignage, ce qu'elles font, sous serment. Il y en a même une qui dira à un moment donné « mais j'ai juré », puisqu'on on remet en question son témoignage. Et alors là, il se passe un truc qui est quand même assez hallucinant. Les deux personnes, ces deux témoins... Alors d'abord, le juge annonce la sentence, hein, pour l'accusé. L'accusé est reconnu coupable, il est condamné à 6 mois de sursis et à 3 ans d'interdiction de manifestation en Ille-et-Vilaine. Il est condamné à verser à chacun des deux policiers 550 € pour le préjudice moral subi. Et dans la foulée, Nicolas Léger, notre bon juge, continue. Les deux témoins sont accusés de faux témoignage, qui peut être puni au maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Elles sont menottées sur le champ en plein tribunal et conduites à l'étage pour être présentées devant un juge d'instruction. Et elles seront auditionnées comme témoins assistés dans le cadre de l'information judiciaire. Témoins assistés pour juger de la véracité de leur propre témoignage. C'est complètement n'importe quoi. Et elles seront libérées sans aucun contrôle judiciaire ni mesure de sûreté. La seule obligation, leurs téléphones portables sont placés sous scellés en attente d'éléments permettant d'établir leur culpabilité. Donc voilà ce qui se passe à Rennes en ce moment. Pour le juge Léger, clairement, l'analyse, c'est l'idée même de remettre en cause la version policière qui apparaît comme dangereuse. C'est insupportablement paradoxal. Et soyons clairs, nous dit la défense collective de Rennes, la tentative de Léger de s'en prendre aux témoins en pleine audience, du jamais vu à Rennes pour du correctionnel, de mépriser le récit de l'inculpé et de perturber grossièrement la plaidoirie de l'avocat, résulte directement d'une incapacité à pouvoir faire face à une défense plus structurée que l'abattage ordinaire du tribunal. Donc voilà, la défense collective de Rennes appelle à se mobiliser pour ces affaires. Il y a un site, hein, c'est défensecollective.noblogs.org. Vous pouvez vous y rendre, vous aurez encore un peu plus d'informations. On disait tout à l'heure que la justice protège la police, elle fait pas que ça, elle condamne.
Oui, elle poursuit même ceux qui amènent des témoignages. Alors, on parlait tout à l'heure, et ça va faire totalement résonance avec cette affaire rennaise dont tu nous as parlé et dont on reparlera évidemment sur Canal Sud. Tu parlais, Mathieu, tout à l'heure d'un article sur le site BuzzFeed.com, article qui s'appelle « Enquête sur de faux témoignages de vrais policiers ». C'est un article que je vous recommande. On mettra le lien pour accompagner le podcast de cette émission hein, sur canalsud.net. Cet article parle de beaucoup de choses, hein, notamment justement de ces fonctionnaires de police qui se disent victimes d'outrages à répétition et du business que ça engendre, hein, qui est créé autour de cette notion d'outrage. Mais aussi, donc, il collecte des informations sur plusieurs procès avec des témoignages faux. Hein, et il prouve que ces témoignages sont faux, émis par des policiers et qui, eux, pour le coup, ne sont jamais poursuivis. Donc là, on voit bien qu'il y a un témoignage très certainement vrai, prouvé en tout cas par des vidéos à Rennes, hein, mais qui est un témoignage contre la police. Et là, d'un seul coup, hop, accusation de faux témoignage. Par contre, évidemment, quand les policiers commettent eux-mêmes de faux témoignages, c'est prouvé. Il n'y a absolument aucune suite judiciaire, parce que c'est ce que confirme l'article aussi. Toutes ces personnes, tous ces policiers qui ont commis des faux témoignages, dont les faux témoignages sont avérés, n'ont jamais, jamais eu de soucis avec la justice. Voilà. Donc, article de BuzzFeed.com, un article signé David Perrotin, enquête sur de faux témoignages de vrais policiers. Voilà. On est pris un petit peu par le temps. Je vais dire un mot très, très rapidement, mais on y reviendra également, car c'est une affaire importante et intéressante. Des crimes policiers, il y en a évidemment énormément dans les quartiers populaires, beaucoup en ville, mais ça n'est pas réservé à ces quartiers-là exact, hélas. Et notamment en Saône-et-Loire, en campagne, en milieu rural, c'est assez rare, mais un agriculteur a été abattu le samedi 20 mai, c'était samedi 20 mai dernier, il s'appelle Jérôme Laronze, il était éleveur à Trivi, donc en Saône-et-Loire. Il a été tué par les gendarmes de Cluny. Il était recherché depuis le 11 mai, suite à un contrôle sanitaire hein, sur son troupeau, contrôle sanitaire particulièrement tendu. Il avait fui en tracteur en fonçant sur les policiers, sur les gendarmes, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Lui a totalement démenti cette version-là. Il était recherché et des gendarmes l'ont retrouvé. Il était en train de dormir dans sa voiture, il a essayé de fuir et ils lui ont tiré dessus, soi-disant en état de légitime défense, sauf que même si l'enquête est en cours, on sait d'ores et déjà que les tirs de balles ont touché la voiture de manière latérale et par l'arrière, donc la légitime défense est un peu mise à mal, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une affaire assez compliquée parce qu'elle remet d'abord, il faudrait parler longuement de ces contrôles sanitaires et de la tension qui est montée entre cet éleveur et les autorités en général. C'est une histoire assez compliquée qui dure sur plusieurs mois, et puis évidemment il y a tout un contexte, hein, celui d'une agriculture et de la pression et des rapports à l'État. Donc voilà, on y reviendra plus longuement, on essaiera d'avoir des gens de la Confédération Paysanne 71 à l'antenne. Confédération Paysanne qui, il faut le dire, est vent debout évidemment contre ce meurtre et enfin voilà, est complètement impliqué pour que justice soit rendue. Ils appellent d'ailleurs à un rassemblement mardi prochain, ce sera le 20 juin et donc ce sera un mois pile poil après la mise à mort de ce jeune agriculteur, et ils sont d'ores et déjà partie civile voilà, dans cette histoire.
Juste pour préciser que le contrôle sanitaire en question faisait suite, comme tu l'as dit, à beaucoup de contrôles et à une tension qui montait. Ce contrôle s'est passé avec l'aide des policiers ou des gendarmes, je ne me rappelle plus, peut-être bien que c'était
des gendarmes.
Et que notamment l'agriculteur en question, lors de ce contrôle, a perdu des bêtes qui sont allées se perdre dans un ruisseau. Il ne les a pas perdues, pouf pouf, elles ont disparu, mais elles sont mortes dans ce ruisseau. Et donc voilà, il a un peu pété un câble et il est parti en tracteur et voilà. Voilà la suite, quoi. Il en est mort.
Un pétage de câble tout à fait relatif. Oui. Hein. Il a pas sorti le fusil comme ça peut arriver des fois dans des histoires en campagne. Bon, voilà. En tout cas, il est mort, lui aussi. Donc, Jérôme Laronze, on a une pensée pour lui également. Et on reparlera de cette histoire parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire et qu'on n'a pas le temps maintenant. Voilà. Donc, une histoire en Saône-et-Loire, c'était le 20 mai. On va terminer cette émission quand même. Il nous reste 5 minutes. On ne peut pas boucler cette émission et ce tour d'actualité des violences policières, des violences d'État, sans parler de l'état d'urgence. État d'urgence, demain, ça fera 1 an et 7 mois que la France est sous état d'urgence. Il se trouve que Emmanuel Macron, nouvellement élu, a promis qu'il allait mettre fin à cet état d'urgence permanent. Hein. Eh bien, il va le faire en préparant une loi, ou plutôt en demandant à Édouard Philippe, Premier ministre, et au gouvernement d'Édouard Philippe, de préparer une loi, dont l'avant-projet a fuité certainement très organisée, dans le quotidien Le Monde. projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Hein, ça, c'est l'intitulé officiel pour le moment. Or, qu'est-ce que fait ce projet de loi ? Eh bien, il reprend quasiment l'ensemble des mesures de l'état d'urgence pour les couler dans le droit commun, pour les fondre voilà, dans le droit commun. C'est-à-dire qu'on serait dans un espèce d'état d'urgence constant, permanent, sans même avoir à le faire revoter par le Parlement. Sans même qu'il y ait un contrôle déjà extrêmement léger, mais ce contrôle-là disparaîtrait. Alors, par exemple, les assignations à résidence, les perquisitions administratives, les fermetures de lieux de culte, et bien tout ça entrerait dans la loi ordinaire et serait même grandement facilité. Alors attention, le gouvernement précise ces mesures ne seraient appliquées qu'au terrorisme, mais enfin, le terrorisme, c'est quand même une notion assez large. Et donc l'idée, ce serait que cette loi se prennent le relais de l'état d'urgence qui serait prolongé jusqu'au 1er novembre prochain, maximum, selon le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Voilà.
Durer 3 jours maximum au départ.
Hein. Oui, on se souvient que c'était quelques jours. Bon voilà, on est déjà à 1 an et 7 mois, et maintenant ils veulent carrément, mais ce sera plus l'état d'urgence, ce sera le régime habituel.
Et déjà Mathieu. À l'époque, c'était censé ne servir que contre le terrorisme.
Oui, c'était déjà censé servir que contre le terrorisme. On peut même préciser qu'en février 2016, le gouvernement de Manuel Valls à l'époque avait déjà justifié la seconde prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois, parce qu'ils avaient besoin, disait-il à l'époque, d'élaborer une nouvelle loi, de temps pour élaborer une nouvelle loi antiterroriste. Cette loi avait été votée le 3 juin 2016, donc il y a 1 an. Bon, bah depuis, l'état d'urgence a été reconduit à 3 reprises. Donc on voit bien que là, ils sont en train de nous refaire un peu de tenir le même discours, hein, la même méthode. On verra le résultat. Alors ça fait évidemment bouger pas mal d'associations. Alors je voulais quand même préciser aussi, oui, que sur certains points, le projet de loi est censé même aller plus loin qu'auparavant. Le ministre de l'Intérieur pourra par exemple désormais décider de placer une personne suspecte sous bracelet électronique. C'était une mesure qui avait été introduite dans la loi de l'état d'urgence lors de sa première prorogation en décembre 2015, mais le ministère de l'Intérieur ne s'en était pas servi parce qu'ils avaient peur que ce soit inconstitutionnel. Bon bah voilà, ça se serait remis dans la nouvelle loi ce coup-ci définitive. Alors, ça fait bouger pas mal de gens, et pas que les plus radicaux. Hein. Notamment, j'ai noté l'ex-garde des Sceaux, Parti Socialiste, Marie-Lise Lebranchu, qu'on peut pas accuser de radicalité, qui dit « couler dans la loi l'état d'urgence pour ne pas avoir à le faire voter, c'est liberticide ». On aurait aimé que ces beaux esprits se réveillent dès que l'état d'urgence a été mis en place. Alors, évidemment, c'est extrêmement grave, et ça a un impact sur toutes les affaires dont on a parlé, évidemment, et sur les affaires à venir, car hélas, on peut le dire, il y aura des affaires à venir. Je voudrais retrouver... Je ne vais pas le retrouver, mais j'avais le discours d'un syndicaliste après la mort de Michael Simon, on l'a dit, hein, tué à Toulouse, qui disait, bon bah oui, c'était de la légitime défense, surtout, ils ont bien fait, surtout dans le cadre de l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'ils mettaient en avant l'état d'urgence pour dire...
Avec la période et l'état d'urgence, ils ont bien fait, ils n'avaient pas d'autre choix, c'était de la légitime défense.
Un syndicaliste policier.
Oui. Un syndicaliste policier, évidemment, qui venait justifier la mise à mort donc, de Michael Simon, et qui mettait l'état d'urgence en avant. Donc on voit bien ce que ça diffuse dans la société et auprès des policiers et auprès de l'impunité policière, cet état d'urgence permanent depuis plus d'un an et demi. Voilà.
On reparlera de ça dans une prochaine émission.
Hélas, on sera amené à y retourner.
On arrive à la fin.
On arrive à la fin. On n'aura pas eu le temps de tout dire, évidemment. On mettra ce podcast avec un certain nombre de liens sur canalsud.net. On précisera quand même, moi j'ai envie de le dire quand même, que ces combats-là contre l'impunité policière et contre les exactions policières n'ont jamais été aussi forts qu'en ce moment. Effectivement, tu l'as dit, Mathieu, tout à l'heure, il y a l'affaire Adama qui a mis un coup de projecteur. Il y a d'autres affaires aujourd'hui, on sent qu'il y a des liens qui se contrent. Voilà, et donc il ne faut pas non plus être, après cette heure et demie un peu difficile, il ne faut pas terminer sur une note trop pessimiste. Le combat est en cours. Et il peut être victorieux si on ne lâche rien.
Eh ben merci Mathieu.
Merci à vous.
Merci Lisa.
Merci.
Et on va terminer avec cette émission avec les Punk'n'Roll Chiens de Garde.
Avant de retrouver Radio Climat, ça chauffe.
Je sens que j'ai touché une corde sensible en parole séparée qui nous prennent pour cible. Quand on descend dans la rue pour défendre nos libertés, ces connards nous tirent dessus, mais sans jamais condamner.
la peine est préparée. Ouais, c'est ça leur kiff, débrouiller les gens, alignés sans motif, à la gueule du client. Oh, oh, messieurs les justiciers, oh, oh, vous êtes des assassins. Oh, oh, quand vous nous faites pas chier, oh, vous butez nos gamins. Parce que sans déconner, un uniforme infâme, et ça les fait bander. Ils jouent au cow-boy à la bonne occasion. Tout ce qu'ils aiment pas est fun, sans même une sauvation. Encore aujourd'hui, c'est un gamin de 9 ans qui a perdu un œil sous les tirs de ses tyrans. Combien faudra-t-il de bavures policières pour que le peuple enfin exprime sa colère? Oh, oh, oh. Messieurs les justiciers, oh, oh, vous êtes des assassins, oh, oh, quand vous le faites marcher, oh.